Bonjour à tous et à toutes. Je ne voudrais pas faire de ce moment une séquence de radio nostalgie. Tout à l'heure, on a chanté des cantiques de Noël Chefneux. C'est pas tout jeune. Je vais vous citer, je ne vais pas le chanter parce que. Bon. Une autre chanson, assez ancienne, elle a plus d'un demi-siècle, qui est une véritable poésie. Le ciel est rouge, il fera beau. Dans l'homme bouge un cœur nouveau. Les verrières sont ouvertes au-dessus de l'atelier et j'entends l'alouette chanter la liberté. Qui a reconnu cette poésie? Nobody. Non? C'est une chanson de l'abbé Duval. Et j'ai trouvé cette pensée en adéquation avec, évidemment, ce que j'ai envie de vous dire ce matin. Le ciel est rouge, il fera beau. Vous savez que c'était une parole de Jésus. Vous savez discerner l'aspect du ciel et de la terre. Quand le ciel est rouge, vous dites, il fera beau. Donc il a construit sa chanson là-dessus. Rouge comme le sang. Un rouge qui annonce un changement de temps, mais plus que de la météo. Dans l'homme bouge, l'homme croyant, bien sûr, l'homme qui a fait confiance à Jésus-Christ, en lui bouge déjà un cœur nouveau. Dieu l'avait dit dans Deutéronome, je mettrai en vous un esprit nouveau, un cœur nouveau. Et comme l'abbé Duval vivait dans un milieu ouvrier, il s'est mis à la place de cet homme qui travaille dans un atelier durement tous les jours et qui est d'une certaine manière captif de son usine, mais qui est attentif tout d'un coup, la verrière est ouverte et j'entends l'alouette chanter la liberté. Une liberté qui est déjà là. Une liberté qui se chante, qui se proclame. On va faire quelques lectures. La première se trouve dans le livre de Deutéronome. Alors, n'ayez pas peur. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui redoutent un peu cette partie de la Bible. Deutéronome, chapitre 30, je vous lis à partir du verset 11. C'est bien connu. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu le mettes en pratique. Et nous allons retrouver ces paroles dans une lettre de Paul, la lettre aux Romains, chapitre 10. Je vous lis à partir du verset 1er. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre le Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus, déçu, trompé, égaré. Enfin, une troisième lecture, vous savez que c'est un peu mon habitude, hein ? Ancien Testament, Épître, Évangile. Voilà. Jean chapitre 14, verset 30. Jésus dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, « levez-vous, partons d'ici. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. » Voilà, je m'arrête là. Oh, vous avez vu que j'ai changé de bicyclette, hein ? Dans le verset 8 du chapitre 10 de la lettre aux Romains, l'apôtre Paul écrit quelque chose à côté de quoi il ne faut pas passer trop vite. Nous prêchons la parole de la foi. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Pour moi, c'est un verset clé, parce qu'il ouvre une compréhension renouvelée de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Il est bien plus qu'un appel à la confiance au sens général. Évoquer l'évangile annoncé par Jésus et ses envoyés, il le fait pour le distinguer du Deutéronome, de la loi donnée par Moïse à Israël, et c'est en dire la supériorité. La parole de la foi est plus grande, plus forte, plus décisive que la parole de la loi. Vous me suivez ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Si je reviens au verset 4, on trouve cette parole essentielle, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux, toutes celles qui croient. Parler ainsi ne signifie pas plaider pour l'anarchie. Bien au contraire, à travers sa mort et sa résurrection, Jésus nous ouvre l'accès à son héritage, à l'amour divin, cet amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Sans cet héritage, la véritable fidélité à la loi est impossible. Accomplir la lettre de la loi est au-delà de nos forces. Comme par exemple monter au ciel ou descendre dans l'abîme. Paul nous en a fait part dans sa lettre, la même lettre aux Romains au chapitre 7. Et il finit par dire « Quel homme misérable je suis. J'aime la loi, j'y adhère, mais j'y arrive pas. » Mais celui qui parle ainsi, bien que ce soit Paul, l'apôtre, qui l'écrive, il n'écrit pas ainsi à partir de son actualité de chrétien. Il parle ainsi par rapport au temps où il était sous la loi, où il n'avait pas encore rencontré Jésus-Christ. C'est l'homme sous la loi que Paul décrit et dont il décrit la misère et l'impuissance. Et il y a ce cri dans son cœur, « Qui me délivrera ?» Et il donne la réponse. Jésus-Christ, notre Seigneur. Que s'est-il donc passé à la croix ? Christ l'a fait pour nous. Il est descendu dans l'abîme et il est remonté au ciel. Et ainsi, il abolit toutes les distances séparatrices du temps et de l'espace. Il abolit toute la distance qui nous séparait de Dieu de manière irréversible. Il abolit tout le temps, tout délai d'une rencontre avec Dieu. Il abolit l'espace et le temps séparateur. Désormais, à partir de la venue de Jésus, de sa mort et de sa résurrection, tu es sauvé. La seule question qui resterait en suspens, c'est « Est-ce que tu crois cela de tout ton cœur ? Est-ce que tu le confesses de ta bouche ?» Comprenons donc cette parole de Paul, « Christ est la fin de la loi ». Et je vous invite à le faire de trois manières. D'abord, dans un sens historique. Ensuite, dans un sens, je vais utiliser un mot barbare, anthropologique. Je le fais parce que Michel l'a utilisé tout à l'heure. Dans le sens de l'homme humain. Et puis dans un troisième sens, un sens juridique. Alors le premier sens, l'histoire. Sur la croix, l'histoire a été cassée en deux. L'histoire, quand je dis ça avec un grand H, l'histoire de l'humanité tout entière, cette humanité laissée à elle-même, tâtonnante, aveugle et sourde. L'histoire avec en son sein un peuple particulier qui a reçu la loi de Dieu pour devenir la lumière des autres, mais ça n'a pas marché. Eh bien, cette histoire-là, Dieu a tourné la page. À Golgotha, l'histoire a été cassée en deux. On ne pourra pas revenir en arrière. En faisant mourir Jésus comme un réprouvé, comme un maudit pécheur, la loi s'est condamnée à l'impuissance. C'est comme les abeilles, vous savez, quand elles nous piquent, après elles meurent parce qu'elles laissent leur dard, une partie d'elles-mêmes. Et ça fait mal. Eh bien, la loi de Moïse, la loi de Dieu, en faisant mourir Jésus, car c'est au nom de la loi que Jésus est mort, la loi a été réduite à l'impuissance. Elle ne peut plus maudire quiconque. S'il y a quelqu'un parmi nous ce matin qui s'imagine être victime d'une malédiction, c'est une illusion. Il n'y a plus de malédiction au-delà de la croix. De quelque bord qu'elle provienne, elle ne peut plus être l'arme des puissances spirituelles de l'univers qui cherchent à nous accuser, à nous asservir, à nous séduire, ou à nous effrayer. La justice de Dieu s'est trouvée un passage qui fait brèche dans ce mur implacable de la loi. Il y a un trou. Ce mur a été troué. La pierre a été roulée. Et que s'est-il donc passé ? La résurrection. Le jaillissement d'un homme nouveau, vivant par l'Esprit Saint, prototype d'une humanité, elle aussi, rendue vivante à travers le trou de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est ce que nous disons quand nous nous faisons baptiser. Nous passons à travers. Alléluia. Les hiérarchies spirituelles imaginées par les hommes, les hiérarchies de la religion, de quelque religion que ce soit, les hiérarchies ethniques, pour ceux qui s'imaginent appartenir à une race supérieure, hein, les hiérarchies sociales, riches, tu es riche parce que Dieu te bénit, ben non, riches, pauvres, toutes ces hiérarchies, sociales, hommes, femmes, tout a disparu. Ces hiérarchies sont devenues obsolètes, inutiles et impuissantes. Dieu fait bon accueil à chacun, à toutes, à tous. Et Paul l'écrit, vous connaissez si bien ce verset, « Il n'y a en Christ plus ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre, ni juif, ni non-juif. Tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Vous êtes un seul être, homme. » Homme ou femme, nouveau, béni parce qu'il appartient au Christ. Alléluia. Vous savez que vous êtes béni? Vous en êtes sûr? Mais oui. Et souvent, nous disons, nous supplions le Seigneur, « Seigneur, bénis-moi !» Puis il me répond, « Mais c'est fait !» Je me rappelle d'un vieux Suisse qui entendait quelqu'un supplier le Seigneur, « Donne-moi ta bénédiction !» Alors avec sa voix rocailleuse, il l'arrête, il le coupe, et puis il dit « La demande pas, prends-la !» Donc voilà, l'histoire a été bouleversée, l'histoire a été changée. Et pourtant, quand on regarde autour de nous, on n'a pas l'impression que c'est tellement changé. Hein ? Mais pourquoi ça ne change pas apparemment ? À cause de l'ignorance. L'ignorance de l'Évangile. Il y a un magasin près de chez moi qui s'appelle « Si j'avais su ». Les gens vont y chercher des matériaux discount. Ah, si j'avais su. Eh bien oui, si le monde savait. Si vous saviez combien Jésus vous aime. Hein, vous connaissez ce cantique. Oui, c'est l'ignorance qui permet au prince de ce monde de se maintenir aux manettes. Si les gens, les chefs d'État, les scientifiques, les philosophes, les musiciens, les poètes, si tous savaient, on entendrait une autre musique, dans tous les sens du terme, hein, sociale, politique, enfin bon, je ne vais pas en parler, hein. Voilà pour le premier sens. L'histoire a basculé du côté de Dieu et eux ne le savent pas. Mais nous le croyons. Et il nous faut le dire, confesser de la bouche. Et je trouve que c'est magnifique, c'est ce fruit de l'Évangile, c'est de nous réunir chacun en soi-même, faire que nous ne soyons plus partagés, divisés, hésitants, tiraillés, déstabilisés pour des riens. Le cœur et la bouche, ça veut dire que l'être humain, sauvé par Dieu, est un de nouveau. Il est restitué dans son unité, en lui-même, mais aussi, bien entendu, avec Dieu et avec ses frères et sœurs. Parler de l'unité des chrétiens, c'est parler d'abord de l'unité du chrétien en lui-même. C'est ainsi qu'on devient capable de tendre la main aux autres et d'accepter les différences. Bref, je ne vais pas m'égarer là-dedans. Je vais parler du deuxième sens, de sens anthropologique. Jésus-Christ a été élevé à la perfection par des souffrances. Vous savez ça. Il a été élevé à la perfection. C'est-à-dire qu'il y a dans la vie de Jésus un mûrissement. Il apprend dans l'obéissance. Être parfaitement fidèle à la loi lui a coûté infiniment cher. Il a coûté la vie. Sa vie offerte sur la croix. Il est l'homme accompli, rendu accompli par la loi. Et sans qu'il ne s'en doute une seconde, Pilate prononce une parole inspirée. Jean chapitre 19, verset 5. Lorsqu'il présente Jésus aux foules qui réclament sa mort, il dit « Voici l'homme ». C'est beaucoup plus que simplement « Voici celui que vous voulez crucifier, voici cet être humain ». Non, il désigne en Jésus la perfection que la loi a permis à Jésus d'atteindre. Jésus est l'homme parfait selon la loi. C'était à nul autre possible. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Voici l'homme, le fruit mûr du don de la loi. Pour la toute première fois depuis le commencement du monde, la loi a conduit à l'accomplissement un être de chair et de sang. L'homme sous la loi. Paul, par exemple, il utilise cette expression pour parler de Jésus. Né d'une femme, né sous la loi. Et il n'en sortira de sous la loi que par sa mort et sa résurrection, par ce trou. Il est le saint et le juste, diront les apôtres après la résurrection de Jésus. Il est le saint et le juste. Vous avez crucifié le saint et le juste. Il peut donc offrir sa vie pour nous tous. L'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 30, donc, a recueilli les paroles de Jésus prononcées juste avant son arrestation. Le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Qui pouvait dire ça? Seul celui qui pouvait dire ça pouvait offrir sa vie pour les autres. Et il l'a fait. Et Jésus poursuit cette idée au chapitre suivant, verset 1. Il poursuit par l'image de la vigne de Dieu. Ce n'est pas un hasard. C'est une image connue des auditeurs de Jésus. Elle nous vient du prophète Ésaïe, dans un chant chanté, au chapitre 5 d'Ésaïe. C'est une parabole qui disait « L'espoir que le divin vigneron avait placé dans son peuple en le libérant d'Égypte et en lui donnant sa loi. Qu'attendait ce vigneron ? Du bon raisin, des fruits excellents. Il avait tout fait pour ça. Il s'était vraiment donné du mal. Il avait entouré, protégé, préparé la terre. Il espérait du bon raisin et il a été déçu. Il y a eu du verjus. Ça agace les dents. Dieu dit sa déception par le prophète Ésaïe. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va démolir sa vigne. Il va tout changer. Et c'est ce qui se passe quand Jésus vient, quand Jésus dit « Moi, je suis la vraie vigne de Dieu. » Le vrai cep. Mais disons, je préfère le terme de vigne, de cépage. « Moi, je suis la vraie vigne. » Que signifie ce mot ? Et ça veut dire qu'il est la vigne digne de confiance. Digne de confiance de la part du vigneron. Dieu, le Père, a tout investi en lui. Il lui a fait confiance. Et Jésus n'a pas déçu le vigneron. Il a fait sa volonté. c'est le sens de ce mot « vrai ». Je suis la vraie vigne. C'est un peu la même chose avec le bon berger. Le bon, le seul vrai berger. Jésus a accompli l'espérance du Père. Et il peut donner à quiconque croit, à quiconque demeure en lui, puisque c'est le thème du chapitre 15, la force de porter ce fruit de justice qui accomplit la loi. Je ne peux pas accomplir la justice par mes seuls moyens à moi. Mais le cep en qui je dois demeurer par la foi, ancré, me permet de recevoir la force de faire la volonté du Père. Jésus disait aux Juifs, « Je fais toujours ce qui lui est agréable à mon Père. Oh. » Et quand il a dit cela, beaucoup de Juifs crurent en lui. Curieux, hein ? Eh bien, c'est ce qui nous est promis à chacun de nous. Croire, avoir confiance. Il peut donner à quiconque demeure en lui la force de porter ce fruit de la justice qui accomplit la loi. C'est pour ça que je disais au début, si Christ est la fin de la loi, ce n'est pas pour déboucher sur l'anarchie, mais c'est pour déboucher sur une loi d'une autre nature, de l'esprit, de l'amour. Je voudrais juste ici mentionner le chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens. On ne va pas le lire, mais souvent, on lit ça dans les mariages. Et on entend souvent ça comme une espèce d'exhortation. Vous devriez être gentil, hein. Et puis, il y a des passages où on se dit, oulala, il pardonne tout, il excuse tout. Si on en fait une loi, elle nous écrase. Mais ce n'est pas ce que Paul fait dans ce chapitre 13. Il ne nous dit pas ce qu'il faut faire. Il nous dit ce qui se passe quand l'amour est là, quand j'ai l'amour. Le texte, c'est « si je n'ai pas, alors en avoir ou pas, l'avoir ou pas l'avoir ». Et c'est pourquoi à la fin, il dit « recherchez l'amour ». C'est le plus grand des dons de l'Esprit. Il est quasiment synonyme du Saint-Esprit. Il expose ce qui se passe quand l'amour est là. Et derrière la description de l'amour à l'œuvre et de ce qu'il permet, ou pas, se dessine quelque chose, à votre avis. Derrière le chapitre 13 de 1 Corinthiens, qu'est-ce qui se dessine ? Le visage de Jésus. Pensez à lui quand vous lisez ce chapitre. Il pardonne tout, il excuse tout, il croit tout, il espère tout. Ça, c'est mon Jésus. Croyez-vous ? Voulez-vous croire ? Parce que pour croire, il faut vouloir croire. Enfin, troisième sens juridique. Christ est la fin de la loi au sens juridique. La justification signifie que Dieu a déclaré, décrété la justice de quiconque croit en Jésus. C'est un décret divin. Avant toute chose, nous pouvons donc nous tenir devant lui dans la paix. Paul écrit aux Romains, chapitre 5, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, ou nous sommes en paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Ça, c'est du béton. Non, c'est plus solide que le béton encore. Il ne s'agit pas de ressentir quelque chose, d'avoir une sorte de sérénité intérieure. Non, ce n'est pas ça. On n'est pas dans le domaine des sentiments. Il est question ici de notre situation devant Dieu. Notre situation, c'est celle-là. Et il faut davantage le savoir que le sentir. Nous investissons beaucoup dans l'émotionnel, parfois, dans nos églises. Et même dans le monde. qu'on ressent ceci ou cela. Mais l'Évangile nous appelle à savoir d'abord. Nous sommes en paix. Nous avons la paix avec Dieu, même quand gronde la tempête. Voilà. C'est ce qui fait dire à quelqu'un, la situation est désespérée, mais pas grave. Nous avons si facilement tendance à nous dévaloriser, à nous culpabiliser, à vouloir donner des preuves, des gages. Nous voulons tellement convaincre Dieu parfois de nous écouter. À vrai dire, c'est la vie de ce monde qui nous a fabriqués comme ça. Et en ce sens, la bonne nouvelle de Jésus est une pédagogie de l'esprit en vue de nous faire grandir dans la confiance. Pensons-y quand nous prions. Que de paroles superflues dans nos prières, comme si on avait besoin d'expliquer à Dieu ce qui se passe, où nous en sommes. Mais il le sait. Et d'une certaine manière, j'ai envie de dire que la foi, la confiance, limite la prière. Elle nous rend moins bavards. Vous savez, il y a des gens, quand ils prient, ils ne sont pas en train de prier, mais ils informent la galerie. Mais ça, ce n'est pas prier. C'est un petit peu ce que Jésus dit dans une parabole. Un publicain, un pharisien sont au temple pour prier. Et si vous lisez la prière du pharisien, il dit « Oh Dieu, je ne suis pas comme tout le monde, comme Solo, cet autre-là. » Il a un œil qui regarde au ciel et l'autre qui louche vers le pécheur qui est derrière lui. Et c'est à lui... Enfin, et Jésus dit, mais ça ne monte pas au ciel, cette prière-là. C'est pour rien. Alors prions, oui, prions, parlons à Dieu avec nos mots de tout notre cœur. Mais n'oublions jamais que Dieu n'a pas besoin qu'on l'informe de tout. Il suffit qu'on lui dise, Seigneur, merci parce que tu es là, pour ta présence. J'ai besoin de toi. Je te prie pour... telle personne, je te prie pour telle situation. Mais rappelons-nous que Jésus lui-même l'a enseigné. Ne soyez pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Pas la peine de saouler Dieu. Quand nous prions, rappelons-nous ceci. Quand nous prions, quand toi tu pries, quand moi je prie, Dieu entend son fils bien-aimé, sa fille bien-aimée. Quand il nous parle, il nous redit inlassablement, son amour, sa miséricorde, sa bienveillance. Il peut aussi nous reprendre, nous avertir, nous éduquer, comme un père le fait, mais toujours dans l'amour. Certes, l'accusateur, le diable, n'a pas encore perdu tout pouvoir de nuisance. Le monde ne gît-il pas sous sa puissance? Il livre un combat acharné, mais il a déjà perdu sa couronne. Alléluia! Le diable a perdu sa couronne. Jésus a ruiné tout son argumentaire. Pour prendre un terme juridique, on est au tribunal, l'accusation argumente et dit « voilà, c'est celui-ci, celle-là, c'est un pécheur, c'est un vaurien. » Jésus, en se donnant sur la croix, a ruiné tout l'argumentaire de Satan. Alléluia! Lorsqu'il voudrait nous déstabiliser par ses accusations, nous pouvons lui résister au nom de Jésus. Jésus, notre justice parfaite devant Dieu. Et nous pouvons, comme Luther, lui jeter l'encrier à la tête. Il est un menteur. Et il faut parfois avoir ce courage de dire, je refuse cette accusation. Je refuse d'être avili, abaissé. Il faut refuser ces choses-là. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'aux yeux de Dieu, nous sommes un pur joyau de sainteté, parce qu'il nous voit à travers son Fils. faut jamais oublier ces choses. Jésus-Christ, notre roi, juste et saint, il vient pour juger les nations. Il a reçu cette dignité et ce pouvoir, ayant condamné le monde par sa mort et sa résurrection. La croix sauve l'humanité, mais elle menace le mal, le monde dominé par Satan. Jésus a condamné le monde par sa mort et sa résurrection. Quand le consolateur, l'avocat, encore un terme judiciaire, sera venu, il convaincra le monde au sujet du péché, au sujet de la justice et au sujet du jugement. Au sujet du péché, d'une part, parce qu'il ne croit pas en moi. Voyez, ça c'est important. Ce qui perd le monde, il ne croit pas en moi. Le reste n'entre plus en compte. Si tu crois, tu es pardonné, tu es sauvé. En ce qui concerne la justice, d'autre part, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, Dieu a justifié son Fils en le ressuscitant d'entre les morts. C'est là, dans la résurrection, qu'il a été proclamé Fils de Dieu avec puissance. Et au sujet enfin du jugement, parce que le prince de ce monde a déjà été jugé. Ah, il voudrait bien cacher ça, hein. Il voudrait nous faire croire qu'il est toujours le maître. Mais sachez-le, c'est un tigre en papier. Jésus est le Seigneur. À lui soit la gloire, dans l'Église, dans tous les siècles, dans l'univers entier, et bientôt nous rejoindrons les cohortes célestes qui magnifieront Jésus victorieux dans le ciel. Alléluia. Amen.